vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, chapitre 3. Alors, il y a trois semaines, si mes souvenirs sont bons, nous avons passé du temps dans cette épître un peu. On a commencé depuis quelques temps déjà, mais nous sommes arrivés au chapitre 3 et nous avions considéré les versets 15 et 16. Et j'aimerais qu'on considère ce matin les versets 17 à 19. Nous allons lire les versets 17 à 19, Philippiens chapitre 3, versets 17 à 19. Nous écoutons la parole de Dieu. « Soyez tous mes imitateurs, frères. » Donc c'est l'apôtre Paul qui parle ici. « Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » On priait. Notre Dieu, nous avons besoin que tu nous guides dans ta parole, que tu illumines nos cœurs par ton Esprit Saint, que tu accomplisses en nous ton œuvre. Je te prie que tu fasses résonner ta vérité au fond de nos cœurs, pour la gloire de ton nom. Amen. Le souci de l'apôtre Paul dans cette troisième épître de Paul aux Philippiens est indiqué, je pense, au verset 1, quand il dit « Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Son but, c'est que les croyants se réjouissent en Jésus-Christ. On appelle cette épître, d'ailleurs, l'épître de la joie, ici. Et pour ce faire, il commence par une mise en garde au verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit et qui nous glorifions en Jésus-Christ et ne mettons point notre confiance en la chair. Et après, il va donner son propre exemple. Il commence avec moi, hein. Et puis, il parle de lui, de ce qu'il était, mais de ce qu'il est devenu une fois que Christ a transformé sa vie. Et puis, il dit qu'il n'est pas parfait, qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais qu'il court. Son but, son ambition, c'est vraiment de connaître Christ et d'être trouvé en lui, dit non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi, là. Et puis il dit que ce qu'il veut, c'est vraiment connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la conformité même à sa mort. Il court vers le but, dit-il. Il dit, je ne suis pas encore atteint la perfection, mais je cours vers le but pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il dit, voilà comment ma vie est tendue depuis que Christ m'a saisi. Depuis que Christ m'a saisi, je cherche à le saisir. Avantage. Il dit, hein, je cherche à le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi. Et puis il arrive au verset 15, il dit, nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Il les invite à avoir la même pensée que lui, la même détermination, à avoir l'être tendu comme son être est tendu vers les choses célestes, vers la connaissance et l'intimité avec Jésus-Christ. Et puis on pourrait imaginer que les Philippiens se disent, oui, mais comment est-ce qu'on peut arriver à faire cela? Comment veux-tu qu'on ait la même pensée, qu'on ait... Je crois que le verset 17 donne un peu la réponse. En quelques mots, il dit, imitez-moi. Imitez-moi. C'est la réponse qu'il dit. Il dit pas aller lire tel livre, il dit pas aller faire ceci, il dit pas prier beaucoup, il dit pas lisez beaucoup. Bien sûr, ces choses sont importantes, mais il dit, imitez-moi. Et ça, c'est l'exhortation principale que l'apôtre Paul donne ici aux Philippiens pour les aider à grandir dans leur connaissance de Jésus-Christ et à se réjouir toujours dans le Seigneur. Quel est le chemin pour cela? Il dit, vous êtes un enfant de Dieu, ayons la même pensée et imitez-moi. Imitez Soyez tous mes imitateurs et portez les regards vers ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, non seulement il dit imitez-moi, mais il dit observez aussi ceux qui marchent comme je marche, hein, ou comme nous avons marché. Probablement ici, il parle de Timothée aussi, et puis Épaphrodite. Donc, le titre de notre message ce matin, c'est croître dans la connaissance de Christ en fixant de bons exemples. Croître en fixant de bons exemples. La première chose que l'apôtre Paul donne ici, c'est une forte exhortation, je crois, à imiter efficacement de bons exemples. Il exhorte les Philippiens à imiter efficacement de bons exemples. Je relis le verset 17. Soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc ce n'est pas un conseil qu'il donne ici, mais c'est bien un commandement, hein, une forte exhortation. Et cette exhortation consiste à l'imiter, il dit. Et donc il ne s'agit pas bien sûr de copier ou de singer Paul, sa manière de s'asseoir ou de parler, etc. Mais il s'agit d'imiter de manière efficace, une manière qui puisse contribuer à produire en eux la joie toujours dans le Seigneur et une connaissance toujours plus grande du Seigneur Jésus-Christ. Et donc l'imitation efficace ici exige d'avoir des modèles précis. L'apôtre Paul ne dit pas « soyez des imitateurs ». Il dit « soyez mes imitateurs ». Donc, il donne des modèles bien précis. D'abord lui-même, quand il le dit, et puis après, il donne aussi l'exemple d'autres. Et donc, si l'Église de Philippe veut croître dans la grâce et dans la connaissance de Christ, c'est à l'apôtre qu'il lui faut d'abord regarder. Bien sûr, parce que lui, l'apôtre, il dit que lui-même, il regarde à Christ, bien sûr. Et puis aussi à ceux qui marchent sur la même voie. Il y a plusieurs autres occasions, l'apôtre Paul a exhorté les croyants à l'imiter. Hein. Je vais vous lire quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il dit « Je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. » Et puis 1 Corinthiens 11, 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et puis en 2 Thessaloniciens 3, il dit « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Donc il donne un peu comment il a vécu en travaillant. Il dit « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » Il dit « Nous avons travaillé, nous avons transpiré, nous avons gagné, si vous voulez, notre pain à la sueur de notre front. » Et il dit « Ce n'est pas que nous en eussions le droit, c'est-à-dire le droit d'être à charge des autres. » Parce qu'il avait dit, il dit par ailleurs que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Il a droit au soutien. C'est un droit que Dieu donne à celui qui prêche l'évangile. Mais il dit, c'est pas qu'on n'avait pas le droit d'user de cela. Mais il dit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Il dit, nous l'avons pas fait. Parce que nous avons voulu vous donner un modèle à imiter. Comment il faut travailler pour gagner son pain et ne pas croire que voilà, hein, qu'il suffit de dire ah, je vis par la foi, j'attends que tout me vienne. Et donc, ce qu'il faut imiter, bien sûr, c'est sa vie, son abnégation, son acceptation des circonstances difficiles, sa vie de prière, la manière avec laquelle il poursuit la connaissance de Christ. Mais Paul dirige aussi, bien sûr, ici on le voit dans l'église de Philippe, vers d'autres personnes. Il dit pas soyez mes imitateurs à moi tout seul et puis oubliez les autres. Non, il dit soyez mes imitateurs, mais soyez aussi les imitateurs, portez les regards vers ceux qui marche selon le modèle que vous avez, le même modèle, le modèle apostolique, le modèle de Paul, le modèle de Timothée et le modèle d'Épaphrodite. Et donc, on pourrait dire aussi que l'imitation efficace exige d'observer attentivement et, je dirais, intentionnellement ceux qui marchent selon le modèle apostolique. Il dit, regardez notre verset 16. Après avoir dit, soyez mes imitateurs, frères, il dit, portez les regards sur ceux qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Et porter le regard est traduit ailleurs par considérer, observer ou fixer vraiment les regards. Il s'agit ici de fixer les regards comme le coureur fixe le regard vers le but. Le mot qui est utilisé au verset 14, par exemple, quand l'apôtre Paul dit, vous vous rappelez du verset 14, il dit « Je cours vers le but ». Et le mot qui est utilisé pour le mot but, c'est la même racine, que même famille que porter les regards. D'accord? C'est le mot qui donne après oscilloscope, télescope, etc. Donc c'est vraiment attentivement, c'est comme, en fait, on a l'idée de ce coureur qui fixe la ligne d'arrivée, d'accord? Et puis, c'est ça son objectif. Il a marqué la ligne dans son esprit, et puis il va vers cette ligne. Il dit, l'apôtre Paul dit, eh bien, il faut aussi, non seulement être mes imitateurs, mais marquer certaines personnes, et puis vouloir atteindre ce but-là aussi dans votre vie. Donc, il dit ici, voilà, il faut porter les regards, marquer ces personnes, les suivre de manière à en tirer le plus grand profit, le plus grand bénéfice pour votre vie. Le psaume 37:37 dit ceci, par exemple, il dit « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. » Donc le croyant est amené à observer, à regarder, à fixer le regard sur ceux qui marchent d'une certaine manière. Et c'est ainsi qu'il peut progresser dans sa vie chrétienne. On peut penser aux jeunes sportifs qui débutent sa carrière et puis qui observent tous les gestes de ses mentors. Il va essayer de répéter les mêmes gestes pour pouvoir atteindre la même performance ici. Eh bien, le chrétien est amené aussi, en tout cas, ce que l'apôtre Paul dit ici à l'église de Philippe, c'est que voilà, vous devez trouver des personnes qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous, et vous devez fixer ces personnes. Vous devez les marquer ici. Des personnes comme donc Épaphrodite ou comme Timothée qu'il avait décrit au chapitre 2 et du verset 20 au verset 30. Vous vous rappelez comment il avait fait l'éloge de ces hommes en donnant des traits de caractère. C'était pas juste pour faire leur éloge, mais c'est pour aussi exposer, voilà, le type de caractère qu'il faut chercher à développer dans sa vie. Donc, les Philippiens sont mis là devant une grande responsabilité. Il dit, l'apôtre Paul dit, si vous voulez croître, eh bien, il faut être mes imitateurs, imiter, et il faut aussi porter les regards, fixer, marquer dans votre vie des personnes qui marchent fidèlement. Donc c'est une responsabilité qu'ils avaient, c'est une responsabilité pour tous les croyants. Et ce qu'il dit aussi, c'est que l'imitation efficace exige un effort collectif. Donc l'imitation efficace exige qu'on ait des modèles bien précis, qu'on observe attentivement et intentionnellement des personnes qui marchent selon le modèle apostolique, mais aussi il montre dans ce qu'il dit ici que l'imitation efficace exige un effort collectif. Le verset 17 dit « Soyez tous mes imitateurs ». Et le mot qui est utilisé en deux parties, c'est un mot qui est composé de deux mots, et dont l'un veut dire « avec », et puis l'autre « mimer ».« Mimer avec », c'est-à-dire qu'il faut, c'est pas juste une imitation individuelle, même si ça c'est vrai aussi, qui est demandé, mais c'est que il est en train de dire, ensemble, vous ensemble, en tant qu'église, soyez mes imitateurs. Darby traduit cela comme ça, il dit, soyez tous ensemble mes imitateurs. C'est-à-dire que il les appelle ici à être collectivement dans un engagement ensemble pour imiter l'apôtre Paul et imiter ce qui marche selon son modèle. Il s'agit d'être en harmonie les uns avec les autres en cherchant vraiment à imiter les bons modèles. Donc, c'est quelque chose que l'on doit, ce qu'il dit aux Philippiens ici, c'est qu'il faut vivre d'une manière telle où on s'encourage mutuellement à regarder à de bons modèles. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on fait une lecture dans un livre, on lit un livre ensemble, etc. on fixe parfois les regards sur quelqu'un qui a marché, qui a une connaissance, qui peut enseigner des choses. Donc l'imitation efficace ici, c'est celle qui exige vraiment qu'on fasse un effort ensemble aussi en tant qu'Église. Bien sûr, il faut faire un effort individuel, mais il faut faire un effort en tant qu'Église pour regarder vraiment vers les mêmes modèles, on pourrait dire, l'apôtre Paul et puis d'autres, et pour croître et grandir vraiment ensemble. Donc c'est moins une chose individuelle qui est demandée ici, même si l'aspect individuel est important, qu'une chose collective. Donc les chrétiens sont appelés, pour ainsi dire, à coopérer les uns avec les autres dans ce devoir d'imitation, à s'encourager mutuellement, à imiter Paul, à imiter ceux qui marchent selon le même modèle. Ça, c'est donc la première chose à laquelle l'apôtre Paul appelle les Philippiens ici, dans ce souci de les amener à avoir une joie véritable en Jésus-Christ. Soyez tous, frères, mes imitateurs, et portez les regards vers ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et puis deuxièmement, ici, il va souligner un danger, le danger de subir de mauvaises influences. Ici. Donc on pourrait dire que la raison pour laquelle il insiste sur cette imitation sage et efficace, c'est qu'ils courent le danger, s'ils ne le font pas, de tomber sous une autre influence et sous une influence mauvaise. Regardez le verset 18, il dit « Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur vente, qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Et bien, en quelque sorte, si vous ne suivez pas mon exemple, si vous n'apprenez pas à marquer de bons modèles, trouvez des personnes qui, dans la Bible, dans l'histoire de chrétienne, ou autour de vous, qui marchent, des personnes qui marchent selon l'évangile, selon le modèle que vous avez là, eh bien, vous allez tomber sous l'influence d'autres modèles. C'est ce qu'il est en train de dire ici, l'influence néfaste de ce qu'il appelle les ennemis de la croix. Alors notons en premier lieu que l'apôtre Paul dit qu'il y en a plusieurs, hein. D'autres textes disent beaucoup. Et il parle à l'église de Philippe, il y en a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Et c'est pour cela qu'il faut nous imiter, il est en train de dire ici. Et cette influence existe bien sûr dans l'église de Philippe, et elle existe encore dans nos églises aujourd'hui. Qui sont donc ceux qui sont ainsi qualifiés d'ennemis de la croix? L'apôtre parle-t-il de personnes extérieures à l'église qui sont des inconvertis? Ou est-ce qu'il parle de personnes à l'intérieur de l'église? Je crois que ça nous serait facile, enfin, ou plus confortable de dire qu'il parle de personnes qui sont à l'extérieur de l'église, des gens qui sont inconvertis. Mais qu'a-t-il à faire à décrire des personnes qui sont à l'extérieur de l'Église comme des ennemis de la croix de Christ? C'est évident qu'ils le sont. Là, il est question de personnes qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Qu'elles soient peut-être d'origine juive, comme on le voit au début du chapitre 3, ou qu'elles soient d'origine païenne, je crois que l'important n'est pas de savoir vraiment, ces personnes étaient inconverties ou pas, etc. Ce qui est important ici, c'est de relever, je pense, que ces personnes dont il parle, sont des personnes qui sont au sein de l'Église, me semble-t-il. Et ce sont des personnes qui font profession de suivre Christ, mais qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Et donc, je crois que la qualification qu'il donne démontre cela. Il dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il n'a pas besoin de décrire des inconvertis comme des personnes qui marchent en ennemis de la croix de Christ. C'est évident. Et puis, c'est une mise en garde. Donc, il parle probablement de personnes qui sont à proximité même des croyants de Philippe. Donc, il est sous-entendu ici qu'il y a une marche qui ne coïncide pas, on pourrait dire, avec leur profession verbale. Ce sont des personnes dont la proximité est telle avec les croyants de Philippe que leur influence peut être néfaste sur eux. C'est pour cela qu'il dit « Suivez notre exemple ». Parce qu'il y a des personnes qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Donc il faut être attentif pour voir la marche de ces personnes et au-delà même de leurs paroles, ce qu'il est en train de dire ici. Donc je peux dire aussi que il s'agit de personnes dans l'Église, je le crois, et cela est montré par l'émotion de Paul même quand il en parle. Regardez, il dit « Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant ». Il est vraiment pris d'une vive émotion lorsqu'il parle de cela. On sait avec quel souci l'apôtre Paul avait pour les églises. Il dit qu'il ne vient à tomber, qu'il ne souffre. Il parle de soucis que lui causent les églises. Quand il avait rassemblé, rappelez-vous, les anciens de l'église d'Éphèse à Milet, quand il remontait vers Jérusalem, eh bien, il leur a rappelé, il a dit, souvenez-vous que je vous ai enseigné dans les larmes, jour après jour, dans les maisons, etc. Et tout ça pour les mettre en garde contre le fait qu'il y aura des gens au milieu d'eux-mêmes qui vont venir et puis qui vont s'infiltrer dans le troupeau et qui vont chercher à détruire le troupeau. Et donc ces larmes démontrent vraiment une tendresse pour ces personnes, sa tendresse pour l'Église et sans doute un profond désir aussi que ces personnes qu'il décrit là se tournent vers Christ et ne demeurent pas simplement dans une profession extérieure, mais qu'ils aient une marche qui soit comme sa marche, comme celle de Timothée et comme celle d'Épaphrodite. Donc notons comment Paul décrit ces personnes ici, qui sont les ennemis, qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre ». Paul dit qu'il les décrit, il dit deux choses ici concernant ces personnes. Il parle de leur mode de vie, et puis de leur sort final. Leur mode de vie et leur sort final. Donc je commence avec leur mode de vie. Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Alors on pourrait penser qu'ils parlent de... qu'ils aiment manger. Quand on dit qu'on a les yeux plus gros que le ventre, c'est qu'on a des fois vu plus qu'on pouvait à accueillir dans notre ventre. Mais ici, on pourrait penser plutôt le ventre en termes d'appétit, de tout ce qui est l'appétit sensuel ou charnel. Le terme désigne des appétits en tout genre. Par exemple, en Romains chapitre 16, versets 17 et 18, il dit « Je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Vous voyez ? Donc ici, il emploie la même expression pour parler de ceux qui causent des divisions, qui vivent d'une manière charnelle, qu'ils cherchent ce qui leur plaît. Leurs propres appétits. Donc ici, on pourrait dire que l'apôtre Paul décrit ceux qui marchent en ennemis de la croix de Christ comme des personnes sensuelles, des personnes qui vivent d'une manière sensuelle. Ils sont indulgents avec eux-mêmes. Ils cèdent à tous les appétits de leur corps. Ce que le corps désire, on lui offre. La nourriture, le vêtement, les voyages, les films, le sexe, le sommeil, tout. On le laisse faire ce qu'il a envie de faire. Il dit, ce sont des personnes qui ont une profession, qui peuvent se contenir d'une certaine manière, mais au fait, dans le fond, le Dieu qu'ils suivent n'est pas le Dieu de la Bible, n'est pas Jésus-Christ, mais c'est vraiment leur propre appétit. Leur propre appétit sensuel. De tout type, ici. L'apôtre Paul, rappelez-vous, lui, il disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même, désapprouvé. Voilà, cherchez le mot. Je ne sois moi-même désapprouvé. Il maîtrise son corps parce qu'il sait que le corps a des demandes parfois, qui sont parfois légitimes, mais qu'il faut maîtriser. mais qu'il faut maîtriser. Dans nos jours, le monde nous dit, mais écoute ton corps, hein, laisse, fais comme ton corps te dit. Tu as envie de cela, tu le fais. Tu as envie de cela, tu le fais. D'accord? Et parfois, on écoute bien trop souvent notre corps. Deuxième caractéristique qu'il souligne ici, c'est leur absence de honte. Hein, pour employer un mot comme l'a fait Spurgeon, il est leur fierté honteuse. Il dit ici, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc, ils sont ici caractérisés par une absence de honte. Ils n'ont plus honte. Non seulement ils n'ont pas honte, mais ils exaltent ce qui devrait leur faire honte. Ce qui devrait inspirer de la honte devient pour eux un sujet de fierté. On a une situation comme celle-là dans l'église de Corinthe, vous vous rappelez, où l'apôtre Paul met le doigt sur un cas d'inceste. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'il dit ici. Il dit, mais au lieu de régler l'affaire, vous êtes plein d'orgueil. Il dit, il n'y a aucune fierté à retirer de cela. La version, la Bible seconde dit ceci. Hein. Il dit, il n'y a pas de quoi être fier. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, l'apôtre Paul dit cela. Au lieu de traiter la situation, vous vous en longueur, vous glorifiez de cela, comme s'il y avait un sujet de gloire à tirer de cette situation. Vous faites votre gloire de ce qui fait votre, qui devrait faire votre honte. Le sentiment de honte ne fonctionne plus. Je lisais, on parle de défilé homosexuel, on appelle ça la fierté. Et un des responsables, il a dit, le combat n'est pas en premier lieu pour la fierté, mais pour la non-honte. Et il y a une revendication, un changement, et j'ai lu cela, un changement de la honte en fierté. C'est pour cela que ça s'appelle comme ça. On n'a plus honte, on est fier. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul souligne ici. Il dit, les choses qui devraient faire honte deviennent votre fierté. Et combien de choses, n'est-ce pas, qui faisaient honte auparavant, ne font plus honte de nos jours. Parfois, on se cacherait pour ne pas regarder certaines choses. On avait honte même quand on les avait vues. Aujourd'hui, parfois, ça ne nous fait plus du tout le même effet. Parce que nous avons peut-être pris l'habitude, n'est-ce pas, de justifier au moins, ou des choses qui devraient nous faire honte. On a changé la nature des choses. Ça n'est plus un péché. Hein. Quand on discutait la dernière fois avec des jeunes, est-ce que ça, c'est un péché? Non, peut-être on parle de maladie, on parle plus de... On change le nom des choses. Et puis, comme cela, ça fait moins honte, et puis on peut plus facilement les accepter. Des expressions verbales qui nous auraient choquées, parfois ne nous choquent plus. Nous n'avons plus tellement l'habitude de les entendre et de les écouter, qu'on finit par les admettre. Ésaïe disait, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la ténèbre en lumière et la lumière en ténèbre, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. On a perdu, dit l'apôtre Paul, tout sentiment. C'est ce qu'il dit en Éphésiens chapitre 4, verset 19. Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et le mot traduit par sentiment ici, en fait, ayant perdu tout sentiment, c'est quasiment un seul mot. Et c'est un mot qui veut dire cesser de sentir la peine ou le chagrin. Et il paraît que ce mot en anglais donne le mot qu'on utilise pour anesthésier. Ici. Donc c'est comme si on était anesthésié. On a perdu toute sensation de honte. La honte ne fonctionne plus, dit Paul. Et il dit, voilà, ces gens qui marchent en ennemi de la croix de Christ sont des gens qui, dit-il, mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Il arrive parfois qu'une réaction mauvaise que nous avons, n'est-ce pas, au lieu de nous d'en éprouver de la honte, on s'en glorifie parfois, n'est-ce pas? On dit, moi, je suis comme ça. Hein. C'est vrai, je démarre au quart de tour. Et si on me cherche, on me trouve. Voilà. On devrait avoir honte de cela. Mais on s'en glorifie. Hein. On dit, parce que moi, je suis comme cela. Non, on devrait dire, oh là là, quelle honte, j'aurais pas dû réagir ainsi, j'aurais pas dû faire cela, demander pardon et puis demander au Seigneur pardon. Mais des fois, on se glorifie de ces choses-là. L'apôtre Paul dit que les gens, parce qu'il parle aux gens de l'église, donc il n'est pas en train de parler à des gens qui vivent une vie extrêmement dépravée à l'extérieur. Il parle de gens qui font une profession de foi,
mais qui ont en substance cette attitude de se glorifier dans ce qui devrait leur faire honte. D'accord ? Donc des choses comme celles que je viens de dire, l'absence de douceur, et bien d'autres choses que vous pouvez voir ici. Troisième caractéristique qu'ils donnent, c'est leur mondanité. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce qui les préoccupe, ce n'est pas le royaume de Dieu, mais tout ce qui est limité à la sphère terrestre. Leur ambition n'est pas le ciel, mais la terre. Ils n'ont pas d'intérêt pour l'église du Seigneur, mais pour leur propre maison parfois. Leur combat, c'est pas le combat de la foi, mais c'est le combat politique, combat écologique, le combat associatif, tout ce que l'on veut. Ils ont du temps pour toutes sortes d'activités terrestres, mais ne s'impliquent que très rarement dans ce qui a une portée céleste. Il dit, ils sont attachés aux choses de la terre. Ce sont des ennemis de la croix, non parce qu'ils s'opposent ouvertement à la doctrine de la croix, disait quelqu'un, mais parce que par leur vie, ils nient les implications de la croix. C'est cela qui fait qu'ils sont des ennemis de la croix. Par leur vie, ils montrent qu'ils nient les implications de la foi. Ils mettent leur gloire non en Christ, mais dans ce qui est honteux. Ils ont leur pensée non tournée vers les choses célestes, comme l'apôtre Paul disait aux Colossiens, « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Mais ils ont leur pensée tournée et préoccupée jour après jour vers les choses de la terre. Qu'est-ce que je ferai? Avec qui je vais me marier? Construire ma maison? Gagner de l'argent? Investir? Toutes les choses qui sont terrestres sont leur principale préoccupation. Mais il termine avec ici leur but, leur sort final. Vous voyez verset 19, il dit « La fin sera la perdition ». Et peut-on penser une fin plus horrible que cela? Voilà des personnes qui ont professé appartenir à Christ, qui sont dans l'église, dans le milieu avec les Philippiens, qui chantent, qui servent, qui partagent, d'accord? Mais dont l'apôtre Paul dit, attention, ils marchent, ces personnes marchent selon, en ennemi de la croix de Christ. Et il dit, sachez une chose, leur fin sera la perdition. Leur marche sensuelle, confuse et mondaine traduisait vraiment leur inimitié de la croix de Christ. Et elle va se solder, dit Paul, à moins qu'il nous change, elle va se solder par la perdition. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et ça, c'est pas une liste exhaustive. On pourrait rajouter encore plein d'autres choses, n'est-ce pas? Jésus avait dit quoi? Si quelqu'un, on le soulignait hier avec le frère Steve, si quelqu'un appelle son frère, se met en colère contre son frère, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il est un meurtrier. Si quelqu'un dit raca à son frère, il est digne de la géhenne. C'est-à-dire que si on vit ce genre de vie sans s'en détourner, même si extérieurement on fait des choses bien, mais si ce qui est au cœur, dans le cœur, dans les pensées, c'est la mondanité, c'est vraiment mettre sa gloire, se justifier dans les choses qui sont honteuses et chercher à satisfaire qu'à ses appétits de toutes sortes. Eh bien, il dit que la fin pour ces personnes, c'est la perdition. C'est la perdition. Donc Paul dit, si vous n'imitez pas ce qui marche conformément à ce que vous avez vu en nous, vous subirez inévitablement l'influence de ce qui marche en ennemi de la croix. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans influence. On suit, que l'on le veuille ou non, un modèle. Et c'est pour cela qu'il faut choisir le modèle que l'on doit suivre. C'est ce que Paul dit ici. Oh, imitez-nous, c'est une exhortation. Choisissez, marquez des personnes qui marchent selon la parole de Dieu, et puis chercher à imiter ces personnes. Sinon, vous marcherez comme ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il n'y a pas de zone, on pourrait dire ici, de neutralité. C'est l'un ou l'autre. Et donc, suivre l'exemple apostolique est une nécessité vitale.
Je vais terminer en troisièmement en soulignant quelques exhortations pour nous, c'est quelques points d'application. Il n'y a pas de véritable croissance sans imitation de bons exemples. On ne croit pas tout seul dans son coin sans apprendre des autres. Il est évident, en lisant ce texte, que l'apôtre Paul veut faire prendre conscience aux Philippiens que leur croissance spirituelle est très étroitement liée aux exemples influents des autres dans leur vie. L'Évangile ne nous demande pas d'être des originaux. Il y a des gens qui disent, moi, je veux pas imiter les autres, je veux avoir ma propre vie, je suis original, c'est comme ça que je suis. Il dit, non, l'Évangile ne nous demande pas d'être original, ni même d'innover, mais d'imiter. Alors, c'est un peu humiliant, n'est-ce pas? On aimerait être son propre modèle. C'est moi qui pensais à ça. Voilà comment je fais, etc. Non, mais il demande de grandir en imitant. En imitant. Parce que c'est comme ça que l'on croit. La nature nous le montre. Hein, quand les enfants grandissent, ils imitent, n'est-ce pas, beaucoup leurs parents. Ils répètent les mots. Ils arrivent à trouver dans quel contexte les parents utilisent tel mot. Et quand le contexte se présente à eux, ils utilisent les mêmes mots. Ils arrivent à capter tout ça. Et je me souviens de Priscille quand elle était toute petite. Je crois qu'elle avait 4 ans. Et je lui disais, tu fais toujours une remarque par rapport à sa manière de parler. Et puis, je lui disais toujours, on ne dit pas un. Tu vois, donc, parce qu'elle parlait, elle disait. Et puis, un jour, je me brossais les dents et elle me parle. Et je ne pouvais pas lui répondre, je fais un. Et elle me répond, on ne dit pas un. Tu vois. Et c'était toute petite. Hein, les enfants, ils attendent, ils arrivent à capter tout. Parce qu'ils font par imitation. Et c'est comme cela que l'on grandit. D'accord? On apprend par imitation. L'apôtre Paul disait que Timothée a été comme un enfant auprès de son père. Il a regardé ses gestes, ses attitudes. Il dit même à Timothée, tu as vu mes souffrances, mes peines, mes luttes, tu as tout vu. Il était là à observer comment l'apôtre Paul réagissait. Et il a appris de l'apôtre Paul comment vivre la vie chrétienne. La croissance par imitation est inscrite comme principe dans l'Écriture. Je vous lis quelques versets. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et on trouve la même pensée en Hébreux 13. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. L'apôtre Pierre dit ceci au pasteur, il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre charge, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, mais sur ceux qui vous sont échus, pardon, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Il dit, pasteur, soyez les modèles du troupeau. Parce qu'on ne croit pas, on ne grandit pas sans observer des exemples. Alors on peut être un bon exemple ou un mauvais exemple, mais on va entraîner forcément des personnes dans notre manière de vivre. Tous les progrès que vous allez faire, que nous allons faire dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, seront liés aux efforts que nous allons entreprendre pour chercher des modèles, les marquer et imiter ces personnes. C'est pour ça qu'il faut lire de bons livres de chrétiens mûrs qui nous montrent comment ils ont fait, comment ils ont mis en pratique ceci, quelles dispositions ils ont prises pour lutter contre le péché. Et on peut imiter les mêmes choses. Alors quel effort, chers frères et sœurs, faisons-nous pour chercher de bons modèles? Nous n'allons pas les trouver à la télé, dans les feuilletons à l'eau de rose. On n'en aura pas. Nous n'allons pas les trouver en passant notre temps sur les réseaux sociaux. Nous allons les trouver en lisant la parole. Nous allons les trouver en achetant de bons livres de serviteurs de Dieu. Si on ne sait pas comment faire, on demande à ceux qui connaissent. C'est ça. On cherche en regardant autour de nous des personnes qui vivent, vraiment qui cherchent à vivre pour le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de recopier ce que notre a fait. Il a mis ça en place pour pouvoir se lever comme il faut, pour pouvoir étudier la... Mais je peux faire peut-être la même chose. Pas simplement parce que j'ai envie de copier cette personne, mais parce que je veux atteindre aussi ce résultat-là. Je veux grandir comme il grandit dans la connaissance de Jésus-Christ. La Bible, Dieu veut que ses enfants grandissent de cette manière-là.
Et cela nous fait voir, si vous êtes parents, la responsabilité que nous avons de vivre aussi un modèle pour nos enfants. Si vous êtes moniteur de la classe, la responsabilité que vous avez à vivre un modèle pour les enfants qui sont autour de vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que le rapport à la croix de Christ fait toute la différence. Le rapport que l'entretien à la croix de Christ fait toute la différence. Paul semble indiquer ici que le problème des personnes qu'il décrit, versets 18 et 19, se résume à leur rapport à la croix de Christ. Il dit ici, ils sont des ennemis de la croix de Christ. Autrement dit, leur problème, c'est quoi? Fondamentalement, c'est quoi? C'est qu'ils sont des ennemis de la croix de Christ. Ils vivent comme ils vivent parce qu'ils sont des ennemis de la croix de Christ. Donc c'est leur mode de vie n'est que la conséquence du fait qu'ils sont des ennemis de la croix de Christ. C'est-à-dire qu'ils renoncent à vivre comme l'apôtre Paul vit. Ils renoncent au renoncement que l'apôtre Paul donne ici dans les quelques versets précédents. Dans Galates 6, 12, il disait ceci, il disait « Ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. » Et voilà comment il parlait des judaïsants, des personnes qui voulaient ajouter à la justification par la foi, la circoncision, le salut par la grâce, la circoncision. Il dit « Ils veulent vous faire circoncire uniquement pour ne pas être persécuté pour la croix de Christ. Ils ne veulent pas porter les souffrances attachées à la croix de Christ. Ils ne veulent pas qu'on les persécute. Alors, ils vont se faire circoncire pour dire, oui, nous aussi, nous sommes comme vous. » Et il dit, c'est la croix de Christ qui constitue le problème ici. Jésus disait ceci, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit qu'il y a une vie de renoncement à soi inévitable pour le disciple de Christ. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On entend parfois des personnes dire, chacun sa croix. Hein. Moi, je porte la mienne, toi, tu portes la tienne. Et puis, un tel a un mari pénible, il dit, ça, je porte ma croix. Et puis un autre a des enfants qui sont insupportables et turbulents, ils considèrent ça comme porter sa croix. Et puis pour d'autres encore, c'est peut-être une souffrance par-ci, une maladie par-là. Porter sa croix, ça n'est pas cela. Sinon, si c'était cela, bien beaucoup de personnes seraient chrétiennes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent plus que parfois dans leur vie que certains chrétiens. Non. Donc ce n'est pas le sens qui est vraiment indiqué. Ici, la croix est un objet de torture romain. C'est un objet qui indique la mort, vraiment. Et le condamné à mort devait porter sa croix, comme Jésus a dû la porter, vous avez vu, à un moment, et puis finalement, c'était tellement lourde qu'ils ont trouvé Simon Cyrène. Mais c'était évidemment pour tous ceux qui le voyaient, un homme mort. Il allait vers la mort. Et à ce moment précis, celui qui porte une croix, il n'ambitionne pas de créer une entreprise ou de se marier. Il sait qu'il va à la mort. Il marche, il vit, il respire, mais il est un homme mort à la merci des autorités romaines. Alors bien sûr, Jésus utilise cette expression dans un sens métaphorique, mais ce qu'il signifie, c'est que celui qui veut le suivre doit mourir à lui-même. Et donc la croix de Christ qui représente bien sûr sa mort, sa résurrection, son œuvre, le fait qu'il son humiliation, eh bien doit résonner dans le cœur du croyant. Lui-même doit aussi porter sa croix s'il veut suivre Christ. Et Don Carson dit ceci, il dit que porter sa croix, ça n'est pas avoir des petits problèmes mineurs comme par exemple une belle-mère revêche, hein, il dit, ou un petit rhume des fois. Hein, on dit voilà, je porte ma croix, ma belle-mère, elle est pénible. Non, c'est pas ça, porter sa croix. Hein. Il dit que Jésus veut dire que ceux qui désirent le suivre doivent renoncer à tout intérêt personnel, être libérés des gloires et des séductions de ce monde et prêts à souffrir même de la façon la plus ignominieuse. Et c'est cela que ça veut dire porter sa croix ici. Et quand Paul dit que ces personnes sont des ennemis de la croix de Christ,
est en train de dire que par leur type de vie, ils montrent même l'opposé du renoncement. Ils cherchent à satisfaire leur ventre, puisqu'ils cherchent leur gloire dans ce qui fait leur honte, puisque ce sont les choses du monde, les pensées du monde, parce que leurs pensées ne portent que sur les choses terrestres. Ils montrent exactement qu'ils sont à l'opposé de ce qui est demandé pour quelqu'un qui veut vraiment suivre Christ. Il doit porter sa croix, renoncer à tout. Eh bien, à ce moment-là, s'il ne veut pas le faire, c'est qu'il est un ennemi de la croix de Christ. L'apôtre Paul disait dans Galates chapitre 6, 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Il est en train de dire que la croix seule est la seule chose qui nous gardera de la mondanité. Il dit, « Loin de moi de me glorifier d'autre chose, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, qu'il dit, comme je le suis pour le monde. » Donc ce qui est la chose la plus importante, c'est le rapport à la croix de Christ. Le rapport à la croix de Christ. Troisièmement, la vie chrétienne n'est pas une affaire de simple profession verbale, mais d'affection pour Christ. Vous voyez, d'affection morale, on pourrait dire. Les ennemis de la croix ne sont pas décrits, vous le voyez bien, par ce qu'ils disent, mais par leur style de vie, par ce qui préoccupe leurs pensées, leurs recherches, leurs satisfactions sensuelles. Jésus disait, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Et donc la question, nous dit Jésus, n'est pas simplement ce que je professe, c'est pas simplement ce que je crois, ni avec quelle exactitude je professe la chose, ni même avec quelle ferveur je chante ou je prie. Il dit, mais la question c'est quel effet ces choses ont réellement dans mon mode de vie? Quel effet ces choses ont dans ma pensée, dans mes préoccupations, dans ce dans quoi je mets ma gloire, ou dans ce que je recherche à satisfaire? Donc nous sommes exhortés ici à questionner notre manière de vivre. Elle dit plus que nos simples paroles. Est-ce que je suis indulgent avec mon corps? Est-ce que je cherche ses aises? Est-ce que je cherche toujours ce qui lui fait plaisir? Comment je dépense mon argent? Comment je dépense mon temps? Est-ce que mon style de vie témoigne de ma marche avec Christ ou d'une marche plutôt contraire, de non-renoncement? Laquelle est donc une marche en ennemi de la croix de Christ? Je voudrais souligner aussi que le péché, on voit ici que le péché doit être dénoncé avec insistance, mais dans un esprit d'amour. L'apôtre Paul dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul avait déjà soulevé ces choses aux Philippiens. Il avait passé du temps à leur expliquer, voilà, il faut faire attention, qu'il y a des gens qui marchent, qui sont peut-être devant nos yeux, mais on sera surpris, parce qu'ils ne marchent pas comme ils devraient marcher. Faut pas se fier à leurs belles paroles. Il leur en avait déjà souvent parlé, mais il ne craint pas de dénoncer encore une fois de plus, de manière incisive, on pourrait dire, la marche de certaines personnes qui se prétendent chrétiennes. Et nous aurions sans doute parlé, s'il nous avait été donné d'en parler, d'un peu de relâchement, d'un manque d'intérêt momentané. Nous oserions peut-être le qualificatif de charnel, mais encore, en faisant très attention. Paul dit ce sont des ennemis de la croix de Christ. C'est quand même fort comme expression. On ne se verrait pas dire à quelqu'un, tu agis en ennemi de la Christ. Surtout si la personne professe servir Christ. Mais Paul montre qu'il peut à la fois être incisif, peut-être même ça peut blesser, mais en même temps il est plein d'amour et de sollicitude quand il le dit. Parce qu'il dit, je le dis encore même, quand il écrit même, il pleure en disant ces choses. Parce qu'il a dans son cœur
c'est pas du comment dirais-je du ressentiment pour ces personnes, mais il a un amour, il voudrait que ces personnes changent probablement, que les croyants ne suivent pas de mauvais exemples, mais que ceux qui sont des mauvais exemples se repentent, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. Et quand il le dit, quand la lettre est lue à Philippe, tout le monde l'entend, y compris ceux qui marchent fidèlement avec le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui ne sont que des professants, hein, ceux qui parlent, ceux qui expriment simplement des lèvres. Et donc il n'a pas peur peut-être de blesser, parce qu'il sait qu'il le fait dans l'amour. Maintenant, hein, on dit voilà, il faut aimer tout le monde, faut ne rien dire, hein, faut accepter tout le monde. Si quelqu'un fait quelque chose ou dit quelque chose, surtout, il ne faut rien dire. Non, l'apôtre montre ici qu'il faut être capable parfois de dire la vérité dans l'amour, de dénoncer le péché, mais pas avec arrogance, avec un cœur tendre, un cœur dont l'objectif est que les personnes se détournent de la mauvaise voie et qu'ils se tournent vers Jésus-Christ. Souvenons-nous de ce que l'apôtre Paul avait dit en 1 Corinthiens 5, on l'a dit tout à l'heure, il avait reproché aux chrétiens de ne pas juger la situation. Il a dit, vous n'avez pas jugé la situation, il fallait le faire, il fallait le faire. Dans l'amour, mais il fallait dénoncer le mal. Avec quel cœur considérons-nous les situations de péché dans notre propre vie, chers frères et sœurs, et aussi dans la vie de celle des autres? Est-ce qu'on dit, ça c'est pas mon problème, je ne m'en intéresse pas, je suis pas le gardien de mon frère? On voit que l'apôtre Paul, un exemple qu'il donne à suivre, c'est celui qui dénonce avec amour le péché. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a des blessures quand on dénonce quelque chose, que ça a été fait sans amour. Il ne faut pas confondre blessure et amour. Il peut avoir des blessures, et les blessures peuvent avoir été apportées dans l'amour aussi. Il faut être conscient de cela. Et puis, je terminerai en disant que ce texte nous montre qu'il faut être concerné par les autres et travailler avec les autres. Bien sûr, il y a une dimension individuelle dans ce que Paul dit ici, et la Bible dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Mais l'apôtre ici exhorte les Philippiens à poursuivre la connaissance de Christ ensemble. Hein? Il y a quelque chose à faire de manière collégiale. On est ensemble, soyez tous ensemble. On va s'encourager mutuellement à grandir dans la connaissance de Christ, à lire de bonnes choses, à s'investir aux bons endroits. Et trop souvent, on se tient à l'écart de la vie de l'Église et de la communion des frères et des sœurs, pensant qu'il suffit que je vive pour Christ et que ça suffit. Non, la Bible, oui, bien sûr, il faut cela. Mais il faut la communion. Parce que j'ai besoin de la communion des autres pour grandir. C'est ce que le texte nous dit ici. Proverbe dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Celui qui se tient à l'écart, qui se retire pour dire, moi, c'est moi avec le Seigneur, les autres. Il dit, il cherche ce qui lui plaît. Donc il cherche la satisfaction de sa propre chair. Il est un ennemi de la croix de Christ. Et puis en plus, il est contre tout ce qui est sage. Et souvent, quand vous trouvez quelqu'un comme ça, vous allez voir. Vous lui parlez de choses, il dit, ça c'est pas bon. Il critique tout. Il n'y a que ce qu'il fait qui est bon. Il dit, attention, Dieu veut que nous soyons ensemble les uns avec les autres pour nous encourager mutuellement à grandir, à trouver de bons modèles à suivre dans notre vie chrétienne. Êtes-vous concerné par le progrès spirituel des autres? Êtes-vous même désireux d'être avec eux dans les réunions, à prier avec eux, prier pour eux? C'est ce à quoi nous appelle ce texte. Je relis encore ces paroles. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant. En pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il nous appartient de questionner ce matin notre propre vie, comment je marche avec le Seigneur. Bien sûr, l'apôtre Paul dit plusieurs marchent ainsi, il ne dit pas que tous marchent ainsi, il dit que plusieurs, il y en a qui marchent véritablement comme en suivant vraiment le Seigneur. Mais ce texte nous appelle à nous questionner, à questionner notre marche. Un des grands dangers que nous courons, c'est de dire « je suis sauvé par grâce, au moyen de la foi ». Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Mais ici, la parole nous montre que les œuvres démontrent ce que nous sommes véritablement. Les œuvres démontrent si on marche en ennemi de la croix ou si on marche en ami de Christ. Et si vous êtes ici ce matin et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, ne pas placer votre confiance en Jésus-Christ. Pas moi, mais ce texte dit que vous marchez en ennemi de la croix de Christ et que la fin, c'est la perdition. Mais en même temps, la Bible n'est jamais informative. Elle exhorte. Quand elle donne une information, c'est pour nous exhorter dans le bon sens. Et vous êtes exhorté à placer votre confiance en Jésus-Christ, à lui faire confiance, à lui demander de saisir votre vie et il vous sauvera. Que le Seigneur nous dirige ce matin, nous fasse encore ces choses résonner dans nos cœurs. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et pour tes bienfaits. Donne-nous de nous soumettre aux commandements que nous y trouvons. Et donne-nous des cœurs désireux d'apprendre, pas des cœurs satisfaits de nous-mêmes, de ce que nous sommes, mais donne-nous de pouvoir regarder avec humilité à ceux qui ont déjà fait plus de progrès que nous et qui marchent dans la fidélité à ta parole, à les observer, à apprendre d'eux. Seigneur, donne-nous toujours les yeux rivés dans ta parole, à regarder l'exemple des apôtres pour pouvoir vivre comme tu nous le commandes. Seigneur, donne-nous de considérer avec sérieux ces paroles solennelles que nous avons lues ce matin et que personne ici ne se perde, mais que tout se tourne véritablement vers toi pour la gloire de ton nom. Amen.